chef de file des soins infirmiers, assurant la sauvegarde des hautes normes de qualité, cherchant à promouvoir l'enseignement, la recherche, l'encadrement, le soutien et le développement des compétences et de l'excellence clinique. Nous sommes la direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrichu. Bienvenue à Savoir et Stéthoscope.
Donc, bonjour et bienvenue à cet épisode du balado Savoir et Stéthoscope. Donc, vous êtes en compagnie aujourd'hui de Julie Blanchette, conseillère en soins.
Et Sophie Martin, conseillère en soins également, à la direction des soins infirmiers.
Et aujourd'hui, pour traiter de notre sujet sur la santé mentale, on reçoit avec nous Andréanne Choquette, qui est professeure praticienne en sciences de la santé à la Faculté de médecine et des sciences de la santé à l'École des sciences infirmières, bien sûr, l'Université de Sherbrooke, et qui détient vraiment une spécialisation dans le domaine de la pratique en santé mentale. Donc, en plus de son expertise aussi à titre de professionnelle, Andréanne a su mettre à profit son côté artistique pour faire vivre cette expertise-là. Et on vous garde la surprise pour la fin.
Savoir et stéthoscope, ça commence maintenant.
Nouveauté, développement, accomplissement. Quoi de neuf à la DSI?
Bien qu'il ne s'agisse pas d'un projet de la DSI, notre quoi de neuf d'aujourd'hui concerne un projet de recherche porté par une équipe de chercheuses en soins infirmiers de l'Université de Sherbrooke, dont la professeure Ariane Girard est sous la coordination de l'infirmière Marie-Hélène Lemay. Nous trouvions plus que pertinent de vous en faire part en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Laissons Joannie Gagné, ASI pour les GMF du CIUS de l'Estrichu, participant au projet de recherche, nous en parler.
Le projet d'Ariane Girard consiste à faire à plusieurs étapes. C'est un programme de formation sur 6 semaines. Ça débute avec vraiment une auto-réflexion sur sa pratique. Donc, les infirmières sont amenées à réfléchir sur leur pratique en santé mentale, en évaluation, en repérage aussi de la clientèle qui se présente pour des problèmes de soins de santé physiques. Puis, tout au long de la formation, on intègre des vignettes cliniques, un co-développement où elles doivent apporter des cas cliniques réels, où on va en discuter là, justement avec une personne experte en santé mentale. Donc, ça suscite des échanges, un partage d'expériences. Puis, je pense qu'essentiellement, en finalité, c'est un éveil aussi de sa responsabilité professionnelle en matière d'évaluation de la santé mentale, de dissocier ou de réassocier un petit peu. Quand je vois quelqu'un pour un problème de santé physique, ben je peux pas passer par-dessus la santé mentale, comme on a entendu parler beaucoup. Les personnes qui vivent avec des maladies chroniques sont à risque de développer des problèmes de santé mentale courants, comme de la dépression, des épisodes dépressifs dans leur parcours de soins. Puis l'infirmière, en première ligne, elle est la première porte d'entrée. Je pense que le projet d'Ariane amène cet éveil-là à justement réassocier les deux, à aborder ce sujet-là du moral ou de la détresse psychologique là, chez la clientèle. Puis, ça permet de détecter précocement là, les troubles mentaux. Ça assure un filet de sécurité aussi pour la clientèle à risque d'idées suicidaires ou à risque ou qui vivent des moments critiques dans leur vie. Donc, essentiellement, là, c'est ça que le projet amène là, à la pratique infirmière.
Donc, pour l'épisode d'aujourd'hui, on avait envie d'aborder le sujet de la santé mentale, mais sous un angle un petit peu différent, c'est-à-dire en dehors de la vision qui est souvent très hospitalo-centrée. D'abord, la santé mentale, la santé physique, ça chevauche beaucoup plus souvent qu'on le pense. Et la santé mentale, ça ne se traite pas juste dans une unité de psychiatrie.
Donc, d'abord, avant de tomber dans le vif du sujet, bonjour Andréanne, on est vraiment choyé de t'avoir avec nous.
Bonjour Sophie, bonjour Julie, ça me fait plaisir d'être là. Merci de l'invitation.
Puis, avant de débuter, là, est-ce que tu pourrais nous aider un peu à clarifier c'est quoi, finalement, c'est quoi la santé mentale?
Ben oui, avec plaisir. Je suis là pour ça, d'ailleurs. Comme ben, beaucoup de concepts, ben, il y a plusieurs définitions. Moi, j'utilise souvent la définition de l'OMS qui décrit la bonne santé mentale comme un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc, ça peut avoir l'air complexe, mais ultimement, c'est d'être bien dans soi et dans sa communauté.
Si on parle maintenant des problèmes de santé mentale...
Oui, après ça, ben là, ça, c'est quand ça va bien, mais des fois, ça va pas bien. On peut parler de problèmes de santé mentale qui ont aussi plusieurs définitions. Donc, selon l'INSPQ, c'est des perturbations mentales, émotionnelles ou comportementales qui vont être transitoire. C'est moins prononcé que dans un trouble mental, on va en parler dans quelques instants. On peut comparer ça là, à la santé physique. On peut se sentir moins en forme parce qu'on est sédentaire, on a moins bien dormi, sans que ça soit considéré comme une maladie. Donc, c'est la même chose pour la santé mentale. On peut se sentir triste, avoir de la difficulté à s'adapter à des changements dans notre vie sans avoir un trouble mental. Donc, pour citer les propos de Dr Marie-Ève Coton, qui est psychiatre, que j'apprécie beaucoup, on peut être malheureux et ce n'est pas une maladie. Donc, on peut être en mauvaise santé mentale de façon passagère ou chronique sans nécessairement avoir un trouble.
Et justement, troubles mentaux?
Oui, quand on parle de troubles mentaux, on parle d'un état qui se définit par des changements qui affectent la pensée, l'humeur, le comportement, et ça va perturber le fonctionnement et ça va entraîner une détresse. Donc, on a un bris de fonctionnement par rapport à ce qui est vu habituellement. Les troubles mentaux sont répertoriés dans des ouvrages scientifiques de référence. Nous, en Amérique du Nord, on utilise le DSM-5, qui est le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Illnesses. Et ailleurs en Europe, on va utiliser par exemple le CIM-11, qui est la classification internationale des maladies. Donc, dans ces ouvrages-là, on a la description des troubles, la prévalence, les comorbidités et le pronostic, entre autres. Donc, ces classifications-là nous permettent d'avoir des visions communes des troubles, de les étudier, d'identifier les meilleures approches pour accompagner les personnes touchées et leurs familles là, dans le rétablissement.
Donc, j'imagine finalement, tu sais, avec tout ça... Il y a des problèmes de santé mentale, des troubles mentaux, tout ça. Est-ce qu'il y a des évolutions à travers tout ça? Est-ce qu'on pourrait parler d'un continuum, par exemple?
Oui, tout à fait. Il y a certains auteurs qui voient ça comme un continuum. Ça ne se limite pas à l'absence ou à la présence là, d'une maladie. Puis ça peut aussi impliquer qu'on peut avoir un diagnostic, par exemple un trouble anxieux chronique, comme le trouble d'anxiété généralisé. On a reçu des traitements, on a développé des stratégies d'adaptation, puis on a une vie satisfaisante. Donc, on peut avoir un trouble mental et être en bonne santé mentale. Et à l'opposé, on peut avoir une mauvaise santé mentale sans trouble mental. C'est important de comprendre ces nuances-là parce que ça a un impact sur la façon dont on fait la promotion de la santé mentale, qu'on prévient les troubles mentaux, puis qu'on traite ceux qui apparaissent. C'est pas nécessaire qu'une personne ait un diagnostic de trouble mental pour mettre en place des interventions qui visent, par exemple, avoir des bonnes habitudes de vie, résoudre des problèmes, mobiliser son soutien ou d'inviter d'autres personnes à se donner du répit.
Puis en parlant de promotion, là, tu sais, on en fait de plus en plus la promotion, la sensibilisation là-dessus. On a juste à penser à la fameuse journée, là, Belle cause pour la cause, là, qui vient promouvoir, dans le fond, je veux dire, la santé mentale. Mais est-ce que je me trompe quand même en disant que malgré tout ça, malgré toute la médiatisation, ça demeure encore un sujet qui peut conduire à de la stigmatisation, la santé mentale?
Oui, tout à fait. Puis selon plusieurs auteurs, la stigmatisation va apporter encore plus de problèmes que la maladie elle-même. Moi, je travaille dans le domaine de la santé mentale depuis 20 ans, puis j'ai eu tellement d'expériences qui racontent la stigmatisation. Je vous donne un exemple. Je vais chez l'ostéo parce que j'avais fait une chute. J'avais mal au dos. Puis, elle me dit, « Ah, tu travailles en santé mentale, tu dois être forte. » Là, je pensais psychiquement, mais non, elle dit, « Toi, tu dois attacher beaucoup de gens dans ta journée. » Il y avait une conception que quand tu travailles en santé mentale, nécessairement, tu travailles avec des gens dangereux que tu attaches. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Puis, je pourrais vous en raconter vraiment beaucoup. Quand on parle de stigmatisation, de quoi on parle? C'est une étiquette, une marque de honte, de désapprobation qui va conduire un individu à être rejeté par les autres. Ça accompagne toutes les formes de maladies mentales, mais aussi toutes les différences. Donc, dès qu'on n'est pas un petit peu dans la norme, par exemple, quelqu'un qui peut avoir un handicap, bien, souvent, on va être victime de stigmatisation. Donc, souvent, les personnes, comme je le nomme, vont être perçues comme dangereuses, différentes, indésirables. Puis ça pose des problèmes sur plusieurs plans parce que c'est réducteur, c'est dommageable, à la fois pour les personnes qui en souffrent, mais pour toute la collectivité, parce que ces personnes-là qui peuvent contribuer à la collectivité sont mises à l'écart, en fait.
Oui, puis tu sais, je pense beaucoup dans l'imaginaire collectif là, à la maladie mentale qui peut être teintée par ce qu'on voit dans des films. Des personnes avec plusieurs personnalités, limites, un peu bizarroïdes, là.
Tout à fait. Puis tu mets le doigt sur quelque chose de super intéressant parce qu'il y a une chercheuse à un moment donné qui a recensé toutes les manifestations ou les conceptions qu'on avait des troubles mentaux dans les films. Puis c'était beaucoup les multiples personnalités, comme on appelle. Là, ça a un autre nom dans le DSM, comme on voit dans le film Fight Club. Alors que c'est très minime. On va parler un petit peu tout à l'heure là, de qu'est-ce qui sont les maladies les plus courantes. Mais ce genre d'image-là reste dans l'imaginaire, puis on s'imagine que c'est ça la santé mentale, alors que c'est vraiment une infime minorité, puis souvent c'est présenté avec beaucoup trop de façon flamboyante.
Mais exactement, dans les films, c'est du divertissement. On met les choses à l'extrême. Donc là, il y a des gens peut-être qui ne sont pas capables de nécessairement faire la part des choses, là, de dire ben c'est un film, là, c'est de la fiction. Mais ça serait quoi une conséquence là, problématique de tous ces stéréotypes-là, finalement, qui sont véhiculés et augmentés par les films, comme dans l'exemple que tu nommes là, sur la santé mentale?
Bien, ça peut apporter que les gens bon, pensent que c'est ça, avoir un trouble mental, plusieurs personnalités, entendre des voix, avoir des idées suicidaires. Puis quand ils ne se sentent pas bien, ils se disent « moi, je suis pas si pire que ça, donc j'irai pas consulter. » Aussi, si quelqu'un a un diagnostic de trouble mental, on peut associer des fois ce qu'on a vu, soit dans les films ou dans les médias, ils vont rapporter souvent les cas les plus exceptionnels et on va se dire « si cette personne-là a un diagnostic de trouble mental comme ce que j'ai vu dans les médias ou dans les films, vaut mieux l'éviter. » Mais la plupart des gens qui ont des troubles mentaux, c'est du monde bien ordinaire que vous allez croiser à l'épicerie puis vous en rendez même pas compte. Puis il y en a peut-être ici, même dans la salle, puis on les aime tous, ces personnes-là. Alors, on entend aussi des propos dégradants. Puis ça, j'en ai entendu dans les formations que j'ai données. Les étudiants m'en rapportent que les personnes sont paresseuses, qu'elles s'inquiètent pour rien. Donc, si moi, par exemple, j'ai un trouble mental et que j'entends ces propos-là, mais je peux les internaliser, ça peut beaucoup affecter mon estime personnelle. Et ça peut faire en sorte que je n'irai pas consulter parce que je me dis, si j'entends ça de la part de soignants dans mon milieu, si une infirmière a plus de risques d'avoir des troubles mentaux, soit dit en passant, à cause de tout le stress qu'elle vit. Donc, si j'entends mes collègues dire que les filles qui ont des troubles anxieux, des dépressions, c'est des paresseuses, ils fake, mais j'irai peut-être pas consulter. Et selon l'OMS, il y a 2/3 des personnes qui ont des symptômes mentaux qui ne vont pas consulter. Et ça retarde la mise en place d'un traitement qui est efficace. Et ça fait en sorte que ça vient, à la limite, augmenter le fardeau des troubles mentaux parce qu'on ne vient pas traiter aussi efficacement.
Est-ce que je me trompe si je dis qu'un des enjeux, c'est que les professionnels de la santé, tu nous parlais un petit peu d'ailleurs, là, ont souvent les mêmes préjugés sur la santé mentale que la population générale?
Tout à fait. Les études ne sont pas super claires à ce niveau-là. Mais tu sais, les professionnels de la santé, c'est la population générale. Mais ce qu'on remarque, c'est que dans certains endroits, ça peut diminuer un peu, mais dans certains endroits, ça vient être exacerbé. Parce que des fois, dans certains milieux, je donne un exemple comme l'urgence, on est beaucoup en contact avec des personnes en crise qui ne vont pas bien. Donc, on vient facilement faire l'association, par exemple, personne qui a un trouble de personnalité limite ou qui est en psychose, à quelqu'un qui a des comportements qui sont désagréables, qui viennent prendre plus de temps, alors que cette personne-là, quand elle va bien, en dehors de sa situation de crise, est une personne qui est potentiellement agréable et qui a des forces et qui a une vie qui peut être satisfaisante.
Puis on peut-tu même prétendre que ça pourrait causer soit des mauvais diagnostics ou des mauvais traitements, là, même pouvant aller jusqu'au décès d'une personne?
Oui, tout à fait, parce que, par exemple, si je vous donne l'exemple de quelqu'un qui travaille à l'urgence, que quelqu'un vient avec un trouble mental, la personne peut penser à tort que les symptômes qu'elle rapporte sont attribuables à son trouble mental et on vient cacher le diagnostic en dessous. Je vous donne un exemple qui m'a été rapporté par une de mes collègues qui fait une recherche sur le sujet. C'était un homme qui avait un diagnostic de schizophrénie qui prenait évidemment des antipsychotiques qui, on le sait, peut causer un syndrome métabolique. Et puis à chaque fois qu'il allait consulter, il me disait « Ah, ça doit être ton stress, ça doit être pour ça que tu es étourdi, que tu files pas ». Mais finalement, il était en hyperglycémie parce qu'il commençait à développer un diabète, mais on avait mal associé les symptômes. Et ça, c'est très problématique et c'est sous-reconnu parce que les personnes qui ont des troubles mentaux, souvent, on va les discréditer et on va moins étudier aussi leur vécu. Donc, je salue ma collègue Marc-Claude Jacques qui est en train de faire des travaux là-dessus. On a bien hâte de lire les résultats.
Je pense que tu as une chaîne YouTube, hein, Andréane. Je t'ai vue, me semble, dernièrement. Tu l'avais annoncé.
Oui, ben oui, d'ailleurs, tu sais, on parle de stigmatisation puis de préjugés. J'ai une chaîne YouTube qui explique de façon vulgarisée les troubles ou les conditions qui se trouvent dans le DSM. Ça fait partie des choses qu'on peut faire pour lutter contre la stigmatisation puis éviter ces éléments-là dont on vient de parler. Donc, je vous encourage à aller regarder Andréane Chaquette. J'ai pas tous les troubles du DSM, mais il y en a quelques-uns et ça peut venir aider à mieux comprendre, mieux connaître et ensuite mieux soigner. Dans le fond.
Donc, tu nous expliques vraiment bien. Moi, ça m'aide beaucoup à comprendre. Là, il y a différents... dans la santé mentale, il y a tellement différentes réalités. Il y a différents véhicules. Il y a différentes façons de voir tout ça. Mais à travers tout ça, il y a une gradation, il y a un continuum. Tu nous l'as vraiment bien expliqué. Est-ce qu'il y a des troubles mentaux là, qui sont peut-être plus fréquents ou plus graves que d'autres?
Oui, c'est une très bonne question. Les troubles mentaux, en fait, c'est très hétérogène. Ça peut être de léger à passager à grave et chronique. Quand on parle de troubles mentaux graves, c'est des troubles plus sévères qui amènent les personnes à ne pas être capables d'atteindre des objectifs de vie qui sont considérés de façon commune comme souhaitables dans une culture et à un âge donné. On parle de terminer ses études, être autonome en logement, entretenir des relations, occuper un emploi, etc. On peut aussi parler de ces troubles-là comme des handicaps psychiques. Et ça va toucher à peu près 2 % de la population. Donc, on parle souvent là, de diagnostics comme la schizophrénie ou autres troubles psychotiques, troubles bipolaires, dans certains cas, troubles de personnalité comme la personnalité limite. Cependant, ce n'est pas parce qu'on a ce diagnostic-là que nécessairement on a un trouble mental grave. C'est vraiment les incapacités prolongées qui indiquent là, qu'on est dans un cas de trouble mental grave. Souvent, ces personnes-là vont avoir besoin de soins spécialisés en psychiatrie avec des services de réadaptation. Mais on va en parler plus tard là, quand on va parler de l'hospitalisation.
Puis j'imagine qu'il y a des troubles mentaux qui sont un peu plus fréquents, courants, mais tu sais, peut-être moins, étonnants. Là, pour...
Oui, ouais. Oui, tout à fait plus « mainstream », entre guillemets, ouais. Pardonnez l'anglicisme. Mais il y a les troubles mentaux fréquents ou courants, comme le nom l'indique, là, c'est que la prévalence est élevée. Ça va toucher jusqu'à 15 % de la population. Puis c'est 65 % des diagnostics psychiatriques au Québec. Donc, c'est pas le Fight Club, là, c'est des dépressions, de l'anxiété, etc. Trouble panique aussi, même trouble obsessionnel compulsif, puis aussi le trouble de stress post-traumatique et l'anxiété sociale. Donc, selon l'OMS, d'ailleurs, le trouble dépressif, c'est la principale cause d'incapacité au monde. Donc, c'est vraiment pas banal.
C'est pas négligeable, hein? c'est assez percutant.
Tout à fait. On aurait pu penser que ça pourrait être les troubles cardiovasculaires ou le cancer, mais non, c'est vraiment la dépression qui est la première cause. Puis ça, c'est depuis 2017 qu'ils ont statué ça.
Tu nous parles des troubles mentaux fréquents. J'aimerais ça peut-être mieux comprendre, puis peut-être que nos auditeurs aussi là, voudraient en savoir davantage. Est-ce que tu peux nous dire un peu, ben, c'est quoi les quelques caractéristiques, puis peut-être des choses plus spécifiques à cette situation-là?
Oui, tout à fait. Ça peut durer toute la vie ou être périodique. Par exemple, une dépression peut avoir un épisode isolé, plusieurs épisodes ou avoir un trouble dépressif qui est persistant. C'est très variable hein, dans le niveau de gravité. Il y a des personnes qui peuvent être pleinement fonctionnelles, on ne s'en rend pas compte. Il y a des personnes pour qui les incapacités sont un petit peu plus importantes. C'est souvent associé à des taux de morbidité et de mortalité. Souvent, ça va venir en comorbidité avec d'autres problèmes mentaux ou des problèmes physiques. On va en parler un petit peu plus tard. Et les femmes sont souvent plus touchées que les hommes. Est-ce que c'est à cause de la pression sociale? Est-ce que c'est parce que les femmes consultent plus, donc sont plus diagnostiquées? Est-ce que c'est des causes neurobiologiques? On ne sait pas trop. On sait aussi que les hommes, ils consultent moins et qu'ils abandonnent plus rapidement le suivi.
Donc, les hommes à l'écoute? Soyez vigilants si jamais vous vous reconnaissez dans ce que Andrea nous dit.
Ça vaut la peine d'aller demander de l'aide. D'ailleurs, c'est souvent peu diagnostiqué et peu traité pour toutes sortes de raisons. Bon, déjà, les gens, ils ont peur de vivre de la stigmatisation. Ils ont un manque d'accès aux médecins de famille. Il y a un manque de ressources aussi. Tu sais, la personne se dit quand même que j'ai un diagnostic de dépression. C'est dur de trouver un psychologue. Fait que je suis aussi bien de m'arranger tout seul. Le manque d'informations aussi pour bien prendre en charge sa maladie. Et souvent, mais quand la personne va recevoir un diagnostic, des fois, de par le manque de services ou le manque de connaissances, bien, la médication peut être présentée comme une première option. Et des fois, bien, on n'a pas le goût de prendre une médication là, pour notre santé mentale. Et aussi, le manque de dépistage. Donc ça, je lance un appel à toutes les infirmières. Super important d'ouvrir nos antennes.
Tout à fait. D'ailleurs, j'aimerais ça maintenant qu'on aborde un petit peu le sujet de la santé mentale et, c'est important le « et », de la santé physique. Parce que pour rappel que les professionnels en soins infirmiers doivent évaluer ou bon, contribuer à l'évaluation de la santé physique et mentale d'une personne symptomatique. Et d'ailleurs, j'ai posé une question à Joanie Gagné qu'on a entendue un peu précédemment pour lui demander, selon elle, vers quoi qu'on devrait tendre comme infirmière dans notre pratique pour assumer nos responsabilités professionnelles à cet effet-là. Donc, on l'écoute.
Donc, de faire cohabiter un petit peu la santé physique, la santé mentale ensemble, comme des éléments indissociables. Puis notre principale activité comme infirmière, c'est d'évaluer la condition physique et mentale. Donc, c'est pas non plus juste d'ajouter une question sur le moral à mon questionnaire chez mon diabétique, si on veut, c'est de prendre ça de façon holistique puis de poser vraiment les bonnes questions à mon usager. Si je vois que le moral est so-so, ben je me dois comme infirmière d'aller creuser cet aspect-là avec les bonnes questions. Donc, dire les bons mots aussi dans mon questionnement. Si je suspecte des signes de détresse psychologique ou si je vois justement du désespoir chez cet usager-là d'aller mieux. Puis ça peut être en contexte de douleur chronique, en contexte de maladie chronique, ou de justement on recherche mon diagnostic, j'ai pas encore de nom sur mes symptômes, donc il peut avoir des signes de désespoir, puis je me dois comme infirmière de poser les bonnes questions, donc d'éviter des questions floues, d'y aller vraiment droit au but avec une question formelle, avez-vous des idées suicidaires, avec des questionnaires validés aussi. Donc, c'est de repérer précocement ces signaux-là. Puis, parfois, on peut se dire comme infirmière, ben je suis pas super experte en santé mentale, mais il faut se dire qu'on est toute une équipe interdisciplinaire en première ligne. Puis, moi, mon rôle comme infirmière, c'est de repérer, c'est de questionner, c'est vraiment d'aller cibler. Bon, c'est quoi les signes avant-coureurs ou les causes qui sont associées. Je fais un bout de chemin avec l'usager, mais après ça, s'il y a de l'insomnie persistante, ben je peux référer à mon médecin traitant. Si je vois une situation sociale qui est problématique, je vais référer à l'ATS de mon GMF, travailleuse sociale du GMF. Donc, c'est de s'appuyer aussi sur l'interdisciplinarité.
Joanie travaille dans les secteurs de première ligne, puis elle nous parle de la concomitance santé mentale et maladie chronique. Donc, peux-tu nous mettre un petit peu de push là-dessus, Andréane?
Ben oui, certainement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des cas, donc on parle d'à peu près 90 % les troubles mentaux courants, ça ne nécessite pas de soins spécialisés en psychiatrie. Ça peut être soigné dans les équipes de première ligne, là, par exemple en GMF ou dans les services de santé de base du CLSC. C'est super fréquent qu'il y ait des personnes qui reçoivent des soins pour des maladies, par exemple du diabète ou un MPOC, qui a également un trouble mental. Et il y a 20 % des adultes qui s'adressent à des services généraux de première ligne qui présentent un trouble mental diagnostiqué ou pouvant l'être. Donc, c'est presque la norme plus que l'exception, en fait, cette comorbidité-là. Et les troubles mentaux se présentent vraiment souvent en concurrence avec des troubles de santé mentale, notamment les maladies chroniques. Et ça peut être un amène l'autre ou, par exemple, santé physique amène problème de santé mentale ou l'inverse. Donc, les deux sont vraiment interreliés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la présence d'une maladie chronique, par exemple le cancer ou le diabète, ça peut exacerber la détresse. Et cette détresse-là va nuire à la prise en charge de la maladie. Donc, la personne va être moins capable de faire ses auto-soins. Donc, de traiter le trouble mental vient vraiment nous aider aussi à traiter le trouble chronique en dessous.
Je me souviens quand que j'étais étudiante à l'université, d'ailleurs c'est toi qui m'enseignais ce cours-là, tu parlais de la prévalence concernant les infarctus du myocarde. Ça m'avait vraiment frappé, cette statistique-là.
Oui, tout à fait. Puis j'espère que les personnes qui travaillent en cardio sont au courant que 15 à 20 % des personnes hospitalisées pour un infarctus du myocarde rencontrent les critères diagnostiques de dépression, que la dépression va doubler le risque d'un événement cardiaque dans les 1 à 2 ans post-infarctus. Donc ça, c'est vraiment très important à savoir parce qu'il faut dépister, il faut traiter pour venir aider la santé globale. Et ça touche aussi, par exemple, les personnes qui ont le cancer. Il y a 20 à 30 % des personnes atteintes de cancer qui vont vivre un trouble de l'adaptation, puis ils ont 13 fois plus de chances de se suicider. Donc, vraiment, ça peut être létal. Donc, les personnes ne meurent pas du cancer, mais vont mourir d'un trouble mental qui n'est pas traité.
Juste avant l'épisode, puis je pense que ça fait du lien avec ce que tu viens de nous parler, tu nous disais la détection de la dépression ainsi que le traitement de ces entités-là pour avoir un effet bénéfique sur l'incidence, l'évolution des maladies chroniques. Donc, on invite, comme tu dis, là, j'espère que les gens des milieux de soins vont écouter ce balado-là pour prendre conscience de l'impact que ça a. Mais à ce moment-là, je me disais, bon, tu nous parlais de détection. Puis je me suis demandé détection, dépistage, est-ce que c'est la même chose?
Ça se ressemble beaucoup, c'est pas tout à fait la même chose. Quand on parle de détection, souvent ça va être une à deux questions pour venir juste ouvrir la boîte. Donc, dans les dernières semaines, est-ce que vous vous êtes senti particulièrement déprimé? Donc ça, c'est une question de détection. Et ça, c'est pas un acte qui est réservé. C'est un acte qui est commun à plusieurs professionnels qui peut être fait par les travailleurs sociaux, les infirmières auxiliaires, les infirmières, les inhalos, par exemple, pour dire quelque chose. Et quand on parle de dépistage, souvent, ça va se faire avec des outils standardisés qu'on peut avoir besoin d'une formation ou non. Donc, c'est un petit peu plus poussé. Et c'est des outils qui sont conçus avec les critères diagnostiques. Donc, ça demande, après ça, un jugement clinique pour interpréter le résultat. Ça demande un petit peu plus de connaissances. Mais la détection, c'est vraiment quelque chose qui est accessible à un grand nombre de professionnels. Et on viendrait vraiment améliorer la santé mentale de bien des gens en faisant plus de détection et en référant au bon endroit.
Donc, cette détection-là est ouverte à tous les professionnels que tu as nommés et d'autres personnes qui peuvent finalement, après ça, peut-être encourager les usagers à aller plus loin, aller vers une prise en charge ou peut-être les amener justement à aller faire un dépistage.
Puis même, on oublie qu'on on travaille aussi en interdisciplinarité, là, en multidisciplinarité. Soulever un petit drapeau orange, peut-être, suggérer. Tu sais, les infirmières, on n'est pas juste des exécutantes aussi. On peut y mettre des constats, suggérer aux médecins, par exemple, peut-être une consultation avec la psychiatrie ou un psychologue ou un travailleur social ou tu sais.
Tout à fait, on est en première ligne, donc on peut avoir cette vigilance-là là, auprès de nos usagers et puis même de leur famille, hein, parce que sans doute, dans les différents épisodes, quand on partage avec les familles, bien, peut-être qu'on peut faire une détection qu'un membre de la famille qui accompagne un usager a peut-être besoin d'aide puis besoin peut-être d'un peu d'accompagnement aussi.
Ça m'amène à parler un petit peu des portes d'entrée. Les portes d'entrée, pour quelqu'un qui vit un enjeu de santé mentale X, là, il existe sûrement autre chose que de se présenter toujours à l'urgence.
Oui, tout à fait. Puis une des raisons pour lesquelles les gens souvent ne vont pas poser la question, c'est qu'après ça, ils ne savent pas où référer. Donc aujourd'hui, il y a plein d'endroits, beaucoup plus qu'on pense. Ça dépend toujours de la sévérité. Mais évidemment, souvent, ça va prendre une évaluation médicale. Si la personne n'a pas de diagnostic et elle a plusieurs symptômes, c'est super important qu'elle soit vue par un médecin ou par une IPS pour avoir un diagnostic parce que les troubles mentaux, c'est une science d'exclusion. Donc, on va chercher à éliminer d'abord tous les troubles physiques, généralement avec un examen physique puis une prise de sang de base, par exemple, la formule sanguine complète et TSH. Et ensuite, bien, on va pouvoir poser le diagnostic si on a éliminé les troubles physiques. Sinon, ben, dans les CLSC, il y a l'accueil psychosocial et le mécanisme d'accès aux services en santé mentale. Donc, on peut référer la personne à l'accueil psychosocial du CLSC où il y a un intervenant social qui va évaluer la situation et l'orienter dans les services disponibles, tant au public que dans le communautaire. Et si c'est pertinent, la personne pourrait même avoir accès aux services spécialisés là, en santé mentale individuelle ou de groupe. On n'a pas parlé de dépendance encore, mais c'est quand même dans le DSM. Si ça touche l'usage de substances, il y a dans chaque région des centres de réadaptation en dépendance. Donc, quelqu'un qui a un problème, soit avec une substance ou même, par exemple, avec le jeu, il y a des services qui sont individuels, de groupe, à l'interne pour du sevrage et les services sont gratuits et offerts par des professionnels.
Probablement aussi que dans le communautaire, il doit y avoir des organismes là, qui existent aussi qui peuvent offrir du soutien ou de l'accompagnement.
Tout à fait. Il y a plusieurs organismes sans but lucratif, puis des fois, on les connaît moins, on a peur de référer, alors que c'est des gens qui sont professionnels, qui ont vraiment la santé des gens à cœur. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser ces ressources-là. Je donne un exemple qui est Mon Relief, qui est un organisme qui aide les personnes à vivre avec l'anxiété, dépression, bipolarité, qui fait de l'accompagnement individuel de groupe avec des ateliers de soutien pour des ateliers d'autogestion. Les services peuvent se donner en ligne, ce qui facilite l'accès et le coût est abordable. Et il y a même des services complètement en ligne, par exemple le programme Retrouver son entrain, qui est un programme offert gratuitement par l'Association canadienne pour la santé mentale, qui est en association avec le gouvernement du Québec. Et ça, c'est conçu pour aider les jeunes de 14 ans et plus et les adultes à gérer les baisses d'humeur, déprimes, anxiété, inquiétude.
Est-ce qu'il y a des services aussi pour les proches des gens qui souffrent d'un problème, par exemple, ou un trouble de santé mentale?
Oui, tout à fait, parce que je trouve que Sophie, tu l'as très bien nommé. Là, c'est important aussi de voir la santé mentale des proches parce que, par exemple, quelqu'un qui a vécu plusieurs infarctus, qui est dans un épisode dépressif, bien, le proche peut avoir lui-même, après ça, des difficultés à devoir soutenir son proche. Donc, pour quelqu'un qui a des problèmes de dépendance, donc il y a un répertoire qui s'appelle « Drogue, jeu, aide et référence » qui est 24/7. C'est des intervenants qui vont pouvoir évaluer c'est quoi le besoin puis référer dans les ressources à l'offre du soutien, référence, etc. Ça, c'est tant pour les proches que pour les personnes concernées. Vous savez, vous avez votre PAE au CIUS, mais aussi si vous travaillez pour l'université. Il y a plusieurs programmes d'aide aux employés. C'est à peu près 5 rencontres et ça peut nous aider. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre que ça dérape. Hein. C'est quand même assez facile d'accès. Donc, je vous le recommande vraiment. J'en parle parce que ça fait partie des réalités. Pour ceux que c'est accessible, bien, il y a aussi des services privés, par exemple en psychologie ou en traitement de la dépendance. Il y a plusieurs services qui peuvent être couverts par des assurances si on n'arrive pas à trouver notre compte dans les services publics ou communautaires. Il y a toujours cette possibilité-là.
Donc, ceux peut-être qui nous écoutent, qui reconnaissent peut-être différentes détresses, peut-être qu'eux vivent ou des proches vivent, bien, tu nous nommes, il y a plusieurs ressources, donc on vous invite vraiment à consulter, à vous informer, puis à pas rester avec ça finalement.
Tantôt, Andréane, tu nous disais que c'était la majorité là, des gens qui ont un trouble de santé mentale, il me semble que c'est 90 % qui ne nécessitent pas nécessairement d'avoir des soins spécialisés en psychiatrie. Donc, c'est-à-dire que c'est une minorité finalement de la clientèle qui va se retrouver à être hospitalisée.
Exact.
C'est quoi les principaux motifs d'hospitalisation en psychiatrie?
Donc, la plupart du temps, on parle de situations de crise hein, qui peut compromettre la sécurité de la personne ou de l'entourage ou quelqu'un qui a des symptômes aigus ou graves. Ça peut être des hallucinations, de l'agitation, de l'anxiété très sévère qui va entraver le fonctionnement là, de façon très grave.
Ça, est-ce que les gens se présentent nécessairement toujours de façon volontaire? J'imagine pas.
Non, c'est ça. Ça peut être fait volontaire ou être ordonné par le tribunal lorsque l'état de la personne représente un risque pour elle ou pour autrui. J'ai pas trouvé de statistiques officielles sur la proportion des hospitalisations volontaires versus involontaires au Québec, mais selon une étude qui a été faite en Colombie-Britannique en 2008, on parlait de 44,6 des hospites qui étaient involontaires. Et 10 ans plus tard, on parle de 57 qui étaient involontaires également. Donc, on peut penser qu'au Québec, ça peut se ressembler.
On est allé rencontrer Rosine, qui est infirmière clinicienne et ASI en santé mentale, exerçant majoritairement auprès de la clientèle le psychotique au CHU, qui travaille dans ce domaine depuis 20 ans. On lui a demandé comment elle voyait l'évolution de la pratique infirmière en santé mentale, puis elle nous parle de la complexité grandissante des problèmes de santé mentale. Écoutons-la.
Depuis que je pratique, depuis 20 ans, les soins en santé mentale se sont complexifiés, sont de plus en plus complexes. On sait, évidemment, tout le monde sait qu'il y a de plus en plus de personnes atteintes de troubles mentaux dans la population en général. Si on veut éviter que les soins deviennent encore plus complexes, la pratique infirmière en santé mentale devra être celle de prévention et de sensibilisation. Aller auprès de la population pour les sensibiliser sur les enjeux de santé mentale, pour prévenir justement les troubles mentaux. Elle devra miser sur une prise en charge précoce dans les milieux. Puis l'infirmière aura à jouer évidemment un rôle essentiel dans la détection des troubles, des facteurs de risque.
Le contexte d'hospitalisation involontaire, ça peut rendre les soins difficiles pour le personnel parce que les personnes qui sont hospitalisées contre leur gré, ils peuvent se sentir opprimés par les soignants. Mais ça aussi, ça peut être partagé par des personnes qui sont en hospitalisation volontaire parce que quand on est en hospice, bien, on a une certaine perte de liberté. Donc, les soignants, des fois, sont dans une position délicate. On peut se questionner comment je fais pour aider cette personne-là. Peut-être que ça ne fait pas son affaire d'être à l'hôpital en ce moment. Donc, on sait que la relation entre l'infirmière et la personne soignée, c'est vraiment un élément clé du rétablissement. Puis, adopter une pratique axée sur le rétablissement, ça sous-entend que les soignants croient que le rétablissement est possible.
Croire au rétablissement, je pense que c'est la clé là-dedans. C'est pas toujours facile. Ouais.
Non, c'est ça, mais ça peut sembler aller de soi, mais dans un passé pas si lointain, on pensait que les personnes avec des troubles mentaux graves se rétablissaient pas, que leur vie était en quelque sorte destinée à avoir une existence un peu engourdie par la médication et à être dépendant des services. Puis ça, malheureusement, cette pensée-là peut persister chez certains. Ou des fois, on peut perdre espoir au rétablissement quand on voit une personne qui revient souvent dans les services. Donc, c'est pas de la mauvaise foi. Des fois, ça peut être légitime d'être un petit peu découragé.
J'imagine que ça doit passer aussi par le discours des soignants. Si le soignant lui-même, peut-être, a des idées préconçues, de dire, voyons, il est encore là ou il guérira pas. Mais je pense qu'il faut faire sans doute porter attention à ce discours-là en tant que soignant pour pas teinter peut-être la perception que l'usager a de lui-même et sur ses chances là, de rétablissement et peut-être là, de prendre compte, de garder un petit peu le contrôle sur sa situation.
Puis justement, parlant de rétablissement, c'est quoi au juste le rétablissement, Andréane?
Oui, tout à fait. Bien, comme beaucoup de concepts, hein, il y a encore une fois plein de définitions. Puis comme c'est vécu par les personnes qui vivent avec un trouble mental, j'ai choisi aujourd'hui une définition qui a été suggérée par une personne qui s'est elle-même rétablie, qui s'appelle Patricia Deegan, qui est psychologue et chercheuse américaine, qui a milité pour la défense des droits des personnes qui vivent avec un trouble mental. Elle a elle-même vécu des expériences difficiles et c'est d'avoir reçu des mauvais traitements dans un état de psychose important, qu'elle s'est dit, c'est pas vrai que les gens doivent être traités comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Donc, elle, ce qu'elle a proposé, c'est que le but du processus de rétablissement, c'est pas de devenir normal, entre guillemets. Le rétablissement, c'est une façon de vivre, une attitude, une façon de relever les défis de la vie de tous les jours. C'est pas un processus linéaire, c'est une trajectoire qui comprend des moments de recul et des avancées. C'est l'aspiration à vivre, à travailler, à aimer, et ce, dans une communauté à laquelle il est possible de contribuer significativement. Donc, ça veut pas dire de plus être malade, ça veut pas dire de rentrer dans le moule, ça veut juste dire de vivre à sa façon et d'être bien avec la vie qu'on a.
Donc, il y a plusieurs façons de conceptualiser le rétablissement. Mais est-ce que, je pense que tu pourrais peut-être nous dire davantage, y a-t-il ces différentes façons-là? Est-ce que ça peut être nommé? Est-ce que ça peut être défini un petit peu?
Oui, tout à fait. En fait, chaque personne peut avoir sa propre définition, mais celle qui est la plus souvent partagée par les soignants, moi, c'est celle avec laquelle j'ai été formée. Ceux qui sont en santé mentale, qui m'écoutent, vont reconnaître les 5 étapes. Donc, la première étape, c'est le choc et le déni. Donc, la personne, elle est en crise, elle est anéantie par le pouvoir que le trouble mental a sur sa vie. Elle croit que les symptômes contrôlent sa vie. L'étape 2, la personne a un petit peu moins de symptômes, mais elle se considère sans avenir. Elle dit, ben, moi, je suis une personne malade, puis j'irai jamais plus loin. Donc, elle a perdu espoir. À l'étape 3, la personne va remettre en question le pouvoir que la maladie mentale a sur sa vie. Elle entrevoit la possibilité de changer, mais elle ne s'en sent pas prête à s'engager. Ça, c'est super important de comprendre ça. Après ça, à l'étape 4, ben, la personne, elle se dit, OK, je peux changer, je veux changer, mais je ne sais pas encore quoi faire. Et à l'étape 5, la personne s'est donné des buts et elle se met en action pour changer. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que souvent les personnes hospites sont à l'étape 1, 2, peut-être 3. Puis des fois, on veut qu'ils se fassent des plans très, très précis, mais si tu n'as même pas l'espoir que tu peux changer, ça vient complexifier la situation. Donc, c'est super important de respecter le rythme. Et comme Sophie, tu l'as très bien nommé, faire attention à nous-mêmes, la façon dont on parle, parce que si dans notre discours, on sous-entend que la personne ne changera pas, mais ça va être difficile pour elle de se mobiliser.
Justement, tu sais, la relation infirmière-patient, ça demeure un incontournable, donc il faut quand même faire attention à ce qu'on véhicule nous-mêmes. Puis, qu'est-ce qu'a dit la littérature sur les façons qu'on peut avoir d'établir une relation de confiance avec les personnes hospitalisées?
Oui, bien, je vais vous parler aujourd'hui d'une étude que j'aime beaucoup, à date de 2018, mais je suis retournée pour vous dans les banques de données et je n'ai pas retrouvé... En fait, pourquoi je l'aime? Bien, de un, c'est une étude québécoise qui a été faite par Myriam Clément et ses collaborateurs. Je l'aime parce qu'on est allé chercher l'avis de personnes soignées et d'infirmières pour comprendre c'est quoi les conditions favorables à l'établissement d'une relation de confiance. Ici, dans cette étude-là, on s'intéressait aux personnes qui étaient dans un hospice involontaire de première psychose, mais on peut facilement là, transférer ces éléments-là dans d'autres clientèles. Il y a plusieurs thèmes regroupés en trois grandes catégories, là, les attributs de l'infirmière elle-même, ses interventions et les facteurs contextuels, donc ce qui entoure, par exemple, le milieu hospitalier.
Puis je pense que tu avais des exemples que tu me parlais là, d'interventions là, concrètes là, pour cette relation de confiance. Là.
Oui, tout à fait. Puis un de mes objectifs en donnant ces trucs-là, c'est que les gens se disent, bien, j'en ai des capacités, puis c'est accessible pour tout le monde. Fait, quand on parle des attributs de l'infirmière, puis ça, c'est vraiment des mots de personnes soignées que je vais vous dire. Donc déjà, il y a l'authenticité. Dévoiler sa personne en étant vrai, intègre, honnête et ouvert. La disponibilité, la présence physique et mentale afin d'être prêt à s'occuper de la personne. Fait que des fois, on est avec quelqu'un, mais on pense à autre chose ou on pense à un autre patient, donc être vraiment là. Les gens, ils le sentent quand on est là ou pas. La délicatesse, avoir du tact et respecter le rythme de la personne. Ou la joie de vivre, être bonne humeur et souriant. C'est pas parce qu'on est hospite en santé mentale que tout a besoin d'être dramatique. Donc, d'arriver, faire des blagues, avoir une joie de vivre, ça, c'est vraiment... ce n'est que des exemples. Là, on a parlé des attributs de l'infirmière, mais il y a aussi des interventions. Ce qui ressort, là, c'est accorder du temps pour discuter. Ça peut encore aller de soi, mais dans cette étude-là et dans beaucoup d'études, les gens se sentent peut-être moins écoutés que ce que nous, on a l'impression d'offrir comme écoute. Donc, ce qu'ils nomment, c'est écouter activement sans chercher de solution à tout prix. Ça, c'est vraiment intéressant. Ce qu'ils nomment aussi, c'est accepter de répondre à des questions personnelles posées par la personne soignée sans aller autant en profondeur. Donc, quand on parlait d'authenticité, les gens, ils nous disent beaucoup de secrets, mais qui on est, nous? Je vois les gens qui aiment les animaux, je leur dis « Ah, moi aussi, j'ai un chat, il s'appelle Gaétan, j'ai un autre chat qui s'appelle Tylenol, ça les fait bien rire, on parle de nos chats. » C'est pas très engageant pour nous. Mais là, eux, ils ont l'impression de nous connaître un peu. Donc, cette transparence-là, de leur parler un peu de nous, ça vient renforcer la relation. Et parler de ce qui est important pour la personne. Qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui? Est-ce qu'elle a un chandail d'un groupe de musique? Qu'est-ce qu'elle aime faire quand elle est à domicile? C'est quoi son repas préféré? Donc, d'aller poser la question sur qui elle est en dehors de la maladie.
C'est comme d'être capable de faire preuve d'un peu de vulnérabilité nous-mêmes, parce que l'autre va faire preuve de vulnérabilité, nous parler de sa situation. Donc, d'être capable, comme tu dis, de parler... un peu, de donner un peu de soi aussi, de pas besoin de rentrer dans les choses très, très, très personnelles, mais de dire, bien, échanger sur son chat, comme tu nommes, ou sur quelque chose qui va permettre justement d'ouvrir un petit peu l'impression que c'est une communication dans les deux directions là, qui se passe.
Tout à fait, d'avoir une discussion d'humain à humain.
Exactement.
Et non pas juste de soignant à patient. Un élément qu'on a parlé tout à l'heure là, qui suscitait un espoir réaliste en donnant quelque chose pour s'accrocher. Donc, pas donner de faux espoirs, mais rassurer la personne sur sa capacité à aller mieux. Je sais que présentement, tu ne vois pas le bout, mais moi, j'ai confiance qu'on va réussir à t'accompagner, on va réussir à t'aider pour que tu ailles mieux, puis lui refléter ses progrès. Parce que des fois, la personne ne le voit pas. Donc, aujourd'hui, je trouve que tu as l'air un peu moins triste. Je trouve ça bien. Fait que ça fait du bien à la personne. Puis, refléter à la personne les avantages de son hospitalisation pour ses projets à long terme. Je sais que tu n'aimes pas ça, être ici, mais je crois que tu peux atteindre ce projet-là qui est important pour toi. Ce qui ressort aussi beaucoup, c'est redonner du pouvoir. Donc, dans les centres hospitaliers, pour différentes raisons, il y a des règles qui sont quand même assez strictes. Puis, je pense que n'importe qui sont sujets à ces règles-là peuvent trouver ça dérangeant. Donc, je pense que c'est important de trouver un équilibre entre, d'avoir des règles pour la qualité des soins, pour la sécurité, mais je pense qu'il faut aussi faire preuve de souplesse pour que les gens se sentent humains, considérés et qu'on se soucie vraiment d'eux.
C'est intéressant parce que, tu sais... On a souvent un peu comme la vieille mentalité de penser que les infirmières qui travaillent en psychiatrie, elles donnent des pilules puis elles collent des patchs de nicotine, là. Mais tu sais, tout ce que ça nous apporte amène une vision tout à fait différente. Puis on est quand même allé voir Rosine, qu'on a vu tantôt, qu'on a entendu tantôt, puis qui nous apportait des précisions sur c'est quoi réellement la pratique en santé mentale comme infirmière au niveau intra-hospitalier. Alors, on va l'écouter.
La pratique infirmière en santé mentale est en fait une pratique des plus globales qui tient compte de tous les aspects de la personne, soit les aspects biologiques, psychologiques et sociaux. On sait que la clientèle en santé mentale souffre de pathologies multiples et variées, incluant les addictions et les troubles de comportement. Mais l'infirmière, alors, en santé mentale, fait la promotion de l'autonomie et le rétablissement des patients en leur donnant les outils nécessaires pour mieux gérer leur santé mentale. Elle soutient également les familles et les proches en leur donnant les informations et les conseils. L'infirmière en santé mentale, là, évidemment, joue un rôle central dans une équipe multidisciplinaire qui est composée de psychiatres, pharmaciens, travailleurs sociaux, éducateurs, préposés, ergothérapeutes et beaucoup d'autres. Elle travaille en étroite collaboration avec tous les autres professionnels.
On lui a ensuite demandé quelles sont les compétences, les habiletés à détenir là, comme infirmière ou infirmière auxiliaire pour exercer dans le milieu de la psychiatrie. Écoutons-la.
Beaucoup de compétences sont nécessaires pour être infirmière en santé mentale, mais à mon avis, en plus d'avoir une bonne connaissance, évidemment, des troubles de santé mentale et des médicaments psychotropes pour une meilleure surveillance clinique, une infirmière en santé mentale doit être une personne attentionnée, empathique, évidemment compétente, une personne capable de travailler en équipe, c'est très important, et une personne qui est capable de communiquer efficacement. L'infirmière doit être capable de gérer des crises de manière efficace et elle doit faire preuve d'écoute pour un meilleur soutien émotionnel. Elle doit faire preuve de patience, être capable de rester calme et patient même dans des situations stressantes et avoir une grande tolérance à la frustration ainsi qu'une bonne capacité d'adaptation. Oui, parlons de capacité d'adaptation. L'infirmière en santé mentale doit être capable de suivre l'évolution des patients et être capable d'adapter le plan de soins en fonction des besoins des patients.
Considérant que la direction des soins infirmiers joue un grand rôle dans l'arrivée des nouvelles infirmières et infirmières auxiliaires, il nous arrive d'entendre que les novices ne veulent pas débuter leur pratique dans le domaine de la santé mentale, souvent sous prétexte qu'elles vont perdre leurs habiletés techniques et que ça ne les aiderait pas pour l'examen de l'ordre.
Oui, puis pourtant, comme le disaient si bien Kataoka, Yairo et Saylor, la qualité qui distingue l'infirmière réside plus dans l'expression de ses habiletés cognitives que dans l'expression de ses habiletés psychomotrices.
En effet, les habiletés techniques ne sont pas évaluées lors des examens professionnels. C'est davantage le raisonnement clinique qui sera évalué. Nous avons donc demandé à Rosine qu'est-ce qu'elle répondrait à une novice qui hésite à débuter en santé mentale.
J'avoue que j'ai une affection particulière pour la pratique en santé mentale. La pratique en santé mentale, là, c'est sans contredit la pratique la plus complète des soins infirmiers. Moi, ça fait 20 ans que je travaille en santé mentale et je suis loin d'avoir perdu mes acquis. Au contraire, je les ai renforcés. Les possibilités d'apprentissage en santé mentale sont infinies. Tout dépend de la curiosité, évidemment, et de l'intérêt de chaque infirmière. Chaque jour de ma pratique est une occasion d'apprentissage. La collaboration et la communication continue avec les autres professionnels, les discussions quotidiennes des cas et les réunions multidisciplinaires hebdomadaires nous donnent une place de choix pour un développement continu de nos compétences parce que les psychiatres et les autres professionnels font preuve d'une grande générosité dans le partage de leurs connaissances et démontrent un grand respect pour la contribution et les compétences de l'infirmière.
Équité, diversité, inclusion. La Minute EDI avec Franck Boulaslage.
Santé mentale et préjugés. La discrimination par préjugés envers les personnes ayant des troubles de santé mentale est un phénomène qui est présent dans de nombreuses sociétés. Le Québec n'y faisant pas exception, ces personnes peuvent être victimes de préjugés. De fausses croyances ou d'idées préconçues témoignant souvent d'un manque d'informations. Parmi les préjugés les plus fréquents figurent ceux-ci. Les personnes dépressives manquent de volonté, ne font pas assez d'efforts, sont paresseuses. Ou encore, les personnes anxieuses manquent de caractère et sont faibles. Les stéréotypes associés aux troubles mentaux, tels que la peur de l'agression ou l'incapacité, alimentent la stigmatisation. Cette discrimination peut se manifester dans divers domaines tels que l'emploi, l'éducation ou les soins de santé, empêchant souvent les individus de recevoir le soutien nécessaire. Les préjugés renforcent l'isolement social, entravant ainsi la réhabilitation et l'intégration des personnes concernées. Pour lutter contre cela, il est essentiel de promouvoir la sensibilisation, l'empathie et un accès équitable aux ressources pour tous, indépendamment de leur santé mentale. De manière plus concrète, voici un exemple d'une personne vivant ses préjugés. Une jeune femme d'une trentaine d'années, diagnostiquée avec un trouble anxieux généralisé. En raison de sa condition, cette personne a souvent du mal à gérer des situations stressantes, comme des présentations professionnelles ou des interactions sociales. Lorsqu'elle a postulé pour un emploi dans une entreprise, ses antécédents de santé mentale ont été évoqués lors de l'entretien. Bien qu'elle ait les qualifications nécessaires, le recruteur a exprimé des doutes sur sa capacité à gérer la pression au travail, supposant à tort que ses troubles anxieux l'empêcheraient de réussir. Ce préjugé basé sur la peur et l'incompréhension des troubles mentaux a conduit à son rejet pour un poste pour lequel elle était pourtant parfaitement apte. Cette personne se retrouve ainsi non seulement confrontée à la discrimination dans le milieu professionnel, mais aussi à la stigmatisation sur sa santé mentale, ce qui renforce forcément un sentiment d'isolement. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter la section Équité, Diversité et Inclusion dans l'intranet du SUS de l'Estrichus. Merci.
Des accomplissements extraordinaires par des gens dévoués. Voici le coup de cœur de la DSI.
Donc, aujourd'hui, pour notre coup de cœur, et tel que mentionné en début d'épisode, on avait vraiment envie de vous faire découvrir une artiste de chez nous. Bien, c'est notre invitée, Andréanne Choquette, qui a accepté de nous partager une composition qui sincèrement contribue, selon moi, à faire réaliser une chose importante, c'est que la santé mentale, c'est universel. C'est trop souvent réduit à des étiquettes, à des jugements ou dans des clichés. On a tellement parlé aujourd'hui. Et ta chanson s'intitule, Andréanne, « T'es folle à combien sur 10? » Veux-tu un peu nous expliquer brièvement là, la genèse de cette chanson-là?
Oui, avec plaisir. On était dans un souper avec des collègues, justement avec Émilie Gosselin, qui a participé à un autre balado de la série. Donc, je parlais avec elle de recherche, justement. Moi, je suis plus dans l'enseignement de la santé mentale, puis on s'est dit qu'on pourrait jumeler nos deux passions en mesurant la folie, entre guillemets, sur une échelle, comme c'est fait dans certains projets de recherche. Donc, les collègues m'ont mis au défi de composer une chanson sur le sujet. Donc, la chanson « T'es folle à combien sur 10? » ça vient à la fois normaliser les enjeux de santé mentale en stipulant qu'on a tous des moments où on file des mauvais cotons puis qu'on a un score là, sur l'échelle de la souffrance. En même temps, il y a une certaine critique à l'égard de la médicalisation de la souffrance. Quand on ne va pas bien, on a toujours tendance à poser rapidement une étiquette trouble anxieux, trouble dépressif, TDAH, alors que des fois, ça fait juste partie de la normalité. Puis je fais même un clin d'œil au fait que l'homosexualité a été dans le DSM jusqu'en 1973. Donc, c'est un appel à demeurer vigilant. Les conceptualisations qu'on se fait aujourd'hui de ce qui est normal vont nécessairement changer. Il faut rester critique et ouvert à cette évolution.
On écoute dès maintenant « T'es folle à combien sur 10? » de l'album « Merci pour l'écrasement » d'Andréanne Chose.
Tristesse, insomnie, indécision, perte d'appétit, idée de pendaison. Depuis un mois, félicitations, tu as les critères d'une dépression. J'oublie tout, j'ai un début de démon. Tu bois trop d'un abus de substance. Son cœur palpite et fait une crise de panique. Nous parlons fort. On a tous notre maladie. Toi, t'es folle à combien sur 10? Avoir des pouvoirs immenses,
elles ont manie de tout évident. Nous sommes adeptes de l'évasion fiscale, des personnalités antisociales. On a tous notre maladie. Toi, t'es folle à combien sur 10? Depuis 73, mais si tes règles te rendent hystérique, tu pourrais gagner un nouveau diagnostic. On a tous notre maladie. Toi, t'es folle à combien sur 10? Si ton âme souffre de paralysie, le plus sombre des pronostics.
Donc, c'est excellent, cette chanson-là. Je l'ai écoutée je ne sais pas combien de fois. Donc, merci beaucoup, Andréanne, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été vraiment un super de bel épisode, honnêtement, la santé mentale. Puis probablement qu'on va répéter l'expérience en 2026 si le projet Balado continue.
Bien, merci à vous deux de l'invitation. Ça m'a vraiment fait plaisir. Puis j'espère que ça va inspirer certaines infirmières à faire plus de dépistage ou à aller consulter si elles vont moins bien.
Dans le prochain épisode, il sera question de la recherche en soins infirmiers. Fort probablement que vous avez tous, de près ou de loin, participé à un projet de recherche, notamment concernant la pratique des soins infirmiers. On aura en studio la professeure Émilie Gosselin, infirmière et chercheure à l'Université de Sherbrooke. C'est un rendez-vous! Voici ce qui conclut ce balado de la Direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrichu.
À la prochaine!
Le balado de la Direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrichu, Savoir et Stéthoscope, est produit et réalisé entièrement par l'équipe de la DSI. Ce balado a été enregistré et monté dans les studios de CEFAC 88.3 à l'Université de Sherbrooke. Merci à eux. À la prochaine pour plus de Savoir et Stéthoscope.